notre série de cours concernant la rédemption d'Israël, la Géoula d'Israël, nous devons d'abord savoir qui est le peuple d'Israël. Rappelez-vous que c'était le cours initial avec lequel nous avons débuté l'année, c'est-à-dire ce qu'on appelle d'une manière générale la Emouna. La Emouna n'est pas la foi, mais la capacité à traduire en réalité les notions de l'infini. En hébreu, c'est un verbe, le amen, qui veut dire certifier. Donc, ani me amen, je certifie. Ani me amen est aboré, je certifie le Créateur par ma vie. Donc, chaque homme qui fait partie de ce peuple d'Israël a une qualité qui lui a été donnée depuis sa naissance, d'être capable de certifier l'infini dans ce monde. C'est très difficile parce que l'infini, c'est l'infini, et nous sommes dans un monde limité. Eh bien, nous avons reçu un cadeau qui nous permet de faire cette traduction des valeurs de l'infini. Nous seuls sommes capables de le faire. Aucune nation du monde est capable de faire ce travail, et c'est pour ça que Dieu nous a défini comme étant ses témoins, ses propres témoins. En dehors de nous, ce témoignage n'est pas possible. Et donc, si Israël ne joue pas son rôle dans l'histoire, bien malheureusement, Akadosh Baruch Hu ne peut pas se dévoiler. Donc, la Géoula que nous attendons tous, c'est pas seulement la Géoula des hommes, mais c'est avant tout la Géoula de Dieu. Autrement dit, on veut faire en sorte que Dieu descende de son ciel infini pour qu'il se dévoile sur terre, et nous sommes les seuls intermédiaires sont capables de faire ce travail parce qu'il nous a créé avec cette capacité à l'intérieur de nos gènes. D'accord? Au niveau de la nation.
C'est-à-dire traduire les valeurs de
l'infini. Traduire, c'est-à-dire vivre selon des critères de l'infini. C'est-à-dire les valeurs de la Torah. La Torah a été donnée à Israël. Pourquoi? Parce que Israël seul est capable de faire ce travail. C'est comme si Dieu nous disait, voilà ce que je veux, vivez selon ça. À qui il a donné ça? À Israël. Donc, au moment où nous sommes déjà sur notre terre, au moment où la Géoula a pris déjà une certaine dimension, qu'elle a avancé, il y a des problèmes d'extinction de lumière. Ça veut dire que nous sommes parfois face à des situations qui sont incertaines, nous ne savons plus trop vers quoi nous avançons. Nous sommes un petit peu dans le flou, nous sommes dans le noir, nous sommes dans l'angoisse, nous sommes dans l'incertitude. Et il faut savoir comment faire face à cette période qui est justement en train d'avancer vers la Géoula. Et pourtant, si tu regardes avec un œil extérieur, tu vois qu'il y a de plus en plus de problèmes. Et apparemment, c'est comme si la Géoula, non seulement on n'avance pas vers, mais on a l'impression qu'elle recule. Alors, j'ai écrit un sujet dans ce texte, qui en fait est une partie d'un livre que je suis en train d'écrire, concernant donc toute la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Khalila, l'école Michelef Tahor Bekirbo. Qu'à Dieu ne plaise, celui qui a un cœur pur à l'intérieur de lui, l'Ehitiaesh Beikvot Re'iyato Benefilat Adorot. De sombrer, de tomber, dans le Yéhouch, c'est-à-dire dans la dépression, dans le désespoir, face à ce qu'il verra dans la chute des générations. Yachadim kol apgamim hanir'im la'ayn, parce que, malgré tout ce qui est visible à l'œil, et effectivement il y a des choses qui sont très graves, très mauvaises, très néfastes, nous avons la foi, la conviction qu'Akadosh Baruch Hu, comme nous le disons dans la Amida, connaît Hakol. Qu'est-ce que ça veut dire connaît Hakol? Il acquiert le tout. Est-ce que vous vous êtes posé la question, le sens de cette phrase? Qu'est-ce que ça veut dire connaît Hakol? Vezocher chazde avot. Mande connaît Hakol. Il achète tout. Il maîtrise tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la situation en question qui est apparemment dégradée, elle est maîtrisée par le maître de l'univers. Tout ceci pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas dans l'histoire un moment, ne serait-ce qu'un seul moment, où Dieu lui-même se désespère, se détache. Ça n'existe pas, vous comprenez bien? Est-ce que c'est clair ça? Ça veut dire Dieu ne peut pas arriver à une situation où il se dit « J'ai raté le monde que j'ai créé ». Ça n'existe pas. Donc même si toi tu vois des générations qui sont défectueuses, tu vois des situations qui ne sont pas celles que apparemment il devrait y avoir au temps messianique, ça ne veut pas dire que Dieu, Chas v'Shalom, a failli. Ça ne veut pas dire que Dieu s'est trompé. D'accord?
Okay. Pourquoi il y a le Maboul alors?
Pourquoi il y a?
Il y a le Maboul.
Ça veut dire qu'il y a dans la continuité humaine, certains reculs de l'histoire. Mais ça ne veut pas dire qu'on arrête le cheminement. Quand tu es en voiture et tu avances et que tu es face à un obstacle, qu'est-ce que tu fais? Marche arrière et tu trouves une route qui contourne le problème. Mais c'est exactement la même chose. Donc il y a effectivement certaines marches arrière, on va dire, dans le monde, mais même la marche arrière de l'histoire, elle fait partie de la marche avant. Tu vas pas dire à un moment donné, j'ai dû faire une marche arrière. J'ai voyagé d'un tel endroit et je suis arrivé à tel endroit. Tu vas pas rentrer dans le détail de la marche arrière, même si tu sais qu'il y a eu une marche arrière. Est-ce que cette marche arrière est comprise comme si c'était un autre voyage? Non, ça fait partie du voyage. Et donc le déluge fait aussi partie de ce voyage. C'est pas un échec d'Hachem, c'est un échec de l'homme. C'est-à-dire que l'homme a un libre arbitre et Dieu lui donne la capacité à choisir la vie. Si l'homme n'est pas capable de choisir la vie, eh bien Dieu va contourner ce problème-là et va faire avancer son histoire. S'il y avait un échec total de Dieu, le monde aurait été complètement détruit, sans aucune trace, rien du tout.
Il n'y a pas d'esprit.
Jamais?
Non.
Il n'y a pas encore l'humanité, il n'y a rien, rien du tout. Il y a marqué dans les livres de la Kabbalah, « Boner olamotu machrivan » qui crée les mondes et qui les détruit. Ça aussi, ça fait partie du système de la création, pas parce qu'il s'est trompé et qu'il les détruit. C'est-à-dire que monter et démonter quelque chose fait partie de l'élaboration de la chose. De la même manière que quand un bébé marche et qu'il tombe, et qu'il se relève, et qu'il marche, et qu'il retombe, et qu'il se relève, ça fait partie de l'évolution, d'apprentissage pour pouvoir marcher. Bien, Dieu fabrique ce monde avec la possibilité de la chute, parce qu'il sait auparavant que l'homme est faible et qu'il va chuter. Imagine-toi que Dieu avait créé un monde où la chute n'est pas possible. Mais à chaque fois qu'il y aurait eu une chute humaine, le monde aurait été annulé. Ça ne marche pas. Donc Dieu a créé des mondes qui sont les préparations de ce monde, dans lesquelles il y a aussi une place à la brisure. C'est compris? Ok. Donc, Hachem, il est Koneh Hakol, ta traduction elle est magnifique, c'est-à-dire qu'il est maîtrise le tout. Ve'im achen kachem pnei hadvarim. Et si c'est le cas, effectivement, Kakadosh Baruch Hu maîtrise le tout, ve'it galia, d'une manière claire, c'est-à-dire que même si, d'une manière vue, au-dessus du monde, extérieurement parlant, tu vois des chutes, tu vois des malaises, tu vois des faiblesses dans le monde, sache qu'il y a un autre regard, le regard de l'intérieur, le regard de l'âme, c'est-à-dire que dans la même situation, il y a une phase intérieure que toi tu n'as pas vu avec tes yeux et qui là-bas, dans ce degré-là, il n'y a que réussite. Alors je reprends et je résume ce qu'on vient de dire maintenant. Il y a deux étages de vision. Un étage où tu peux voir des chutes et des réussites, c'est l'étage d'en bas. Et il y a un étage, l'étage d'en haut, où il n'y a toujours que des réussites. Nous sommes dans l'étage d'en bas. Mais si vous avez les yeux adéquats, vous devriez voir aussi ce qui se passe dans l'étage d'en haut. Comment est-ce qu'on appelle l'étage d'en haut, par exemple, dans votre vocabulaire de Torah? Olam Abba, Elyonim, Yerushalayim Shel Ma'ala. D'accord? Qu'est-ce que c'est la Jérusalem d'en haut, d'après vous? C'est une notion, bien entendu, il n'y a pas une ville en haut. C'est-à-dire, c'est une notion idéale de la Jérusalem. Et vous, vous vivez dans Yerushalayim Shel Mata, dans la Jérusalem d'en bas. Dans la Jérusalem d'en bas, est-ce qu'il y a encore certaines faiblesses? Oui. Ça ne veut pas dire que dans la Jérusalem d'en haut, il y a les mêmes faiblesses. Vous comprenez? La Jérusalem d'en haut, elle, elle émet l'idéal absolu. Et la Jérusalem d'en bas, elle, son émission, c'est ce qu'il y a pour l'instant. Le but étant de rejoindre la Jérusalem d'en haut pour qu'elle se dévoile totalement dans la Jérusalem d'en bas. À ce moment-là, le Olam Abba et le Olam Hazé ne feront qu'un. Il n'y aura pas de différence entre les valeurs de l'absolu et les valeurs de la réalisation de cet absolu. Vous êtes avec moi? Par exemple, dans votre corps, vous avez une Neshama et un corps. Votre Neshama, c'est votre Yerushalayim Shel Ma'ala, vos idéaux, et votre corps, c'est Yerushalayim Shel Mata, le concret. Est-ce que vous avez des faiblesses dans votre corps? Oui. Est-ce que vous avez des faiblesses dans votre âme? Non. Elohai Neshama Shenatatabi Tehora. Même si tu as fauté, ce n'est que superficiel. La Neshama, elle ne peut pas être perturbée par ta faute. Ce qui peut être perturbé, c'est qu'elle ne se dévoile pas, parce que tu as créé un écran par ta faute. Mais elle, en tant que Neshama, est-ce qu'elle a été endommagée? Non. Sinon, tu ne pourrais pas dire le matin, Elohai Neshama Shenatatabi Tehora. Tout le matin, tu me redonnes la même Neshama, elle est pure. Le problème, c'est dans la traduction de cette pureté dans l'étage d'en bas. C'est clair ou c'est pas clair? Ok. Mishechush Re'iyat Hanigle Poel Bobilvad. Celui donc qui ne voit que le côté superficiel de l'existence, c'est-à-dire les sens ne sont que les sens du dehors, et non Chayet Omek Ametiut. Il perd, il ne vit pas la profondeur de l'existence. Avec des mots simples, dommage pour ceux qui n'ont que des yeux qui voient la Jérusalem d'en bas. Ils n'ont pas les yeux pour voir ce qui se passe dans la Jérusalem d'en haut. Est-ce que vous avez des lunettes spéciales pour voir ce qui se passe dans la Jérusalem d'en haut? Oui ou non? Oui. Lesquels? Ton Sechel est encore dans la Jérusalem d'en bas. Il fait partie encore de la Jérusalem d'en bas, puisque le Sechel, c'est encore au niveau humain, de l'intelligence. C'est encore plus profond que le Sechel. La Neshama, c'est-à-dire ton être le plus intérieur, avant ton Sechel. Bien fait. Alors, la Neshama, elle, c'est le monde intérieur, et les kélim, c'est le monde extérieur. Mais il y a aussi des kélim pour atteindre la Neshama. Quels sont ces kélim? D'accord. Mais en étudiant quoi? L'intériorité des choses, et pas seulement le côté superficiel de la Torah. Car si vous étudiez seulement le côté superficiel de la Torah, votre regard sera toujours superficiel, parce que vous vous êtes éduqué à voir que le dehors, que les conséquences. Alors qu'il y a une certaine partie de la Torah, celle qu'on vient de fêter hier et avant-hier, l'Lag BaOmer, le Zohar, qui vous permet d'avoir des kélim, justement, de voir aussi ce qui se passe à l'intérieur, d'étudier la Neshama des choses, et pas seulement leur corps. Et si tu étudies, et ça fait partie de ton étude aussi, ce qu'on appelle des cours de Emouna, eh bien, tu acquiers les kélim qui vont te permettre de voir, en fait, ce qui se passe dans la Jérusalem d'en haut. Ça passe aussi par la compréhension. Pas que. D'accord? Ah, celui qui n'a pas acquis ces kélim-là, et non irgal et mar'enav, ne peut jamais se calmer par rapport à ce qu'il voit. parce qu'il est triste de ce qu'il voit. Il est toujours en colère. Il voit un monde qui n'est pas au niveau du messianisme, et il se pose la question, comment est-ce que le Mashiach peut venir dans une génération pareille? On est d'accord? Et c'est pour ça que le siman, le signe distinctif de la génération du Mashiach, c'est quoi? Qui nous donne le signe distinctif de cette génération? Non, ça c'est, tu as raison, mais comment je peux voir moi à l'extérieur le signe distinctif de la génération elle-même, pas de ce qu'elle va faire? Nous dit le Zohar, c'est la seule référence que nous ayons pour ce sujet-là, elle va nous dire quelque chose d'incroyable. Elle va nous dire que la génération du Mashiach sera vilaine de l'extérieur et belle de l'intérieur. Difficile à comprendre. C'est-à-dire que le Zohar nous donne déjà la clé. Il nous dit, attention, je t'avertis d'avance, la génération de la Géoula sera vilaine. Tu verras des choses qui sont anti ce que tu penses être dans le Kodesh. Mais à l'intérieur, sache que c'est une génération extraordinaire dont la Neshama est magnifique. C'est incroyable. Ça rassure? Oui. Donc le Zohar nous dit, regardez bien, Tov Milegav, elle sera cette génération bonne Milegav de l'intérieur, Pnimiutot Tova Lehafli, c'est-à-dire son intériorité sera belle, magnifique, une merveille, ou Marehu Bish, mais l'extérieur sera défectueux. Alken, c'est pourquoi donc toi maintenant tu peux comprendre, tu viens d'avoir un clic de travail. Plus tu verras une génération qui est en train de se vider apparemment de l'extériorité, sache qu'en même temps qu'elle se vide superficiellement parlant, qu'elle n'a rien de Kodesh, sache qu'elle est remplie de plus en plus de Kodesh dans son intériorité. Et donc c'est pour ça que nous devons avoir confiance dans ce que les sages qui étaient des Kohanim, les gens de la grande assemblée, Knesset Agdola, lorsqu'ils ont, eux, rédigé la Amida que nous lisons tous les jours, c'est eux qui ont marqué Kone Hakol, d'accord? C'est eux qui ont donné ce texte. D'où est-ce qu'ils l'ont inventé? Eh bien, ils étaient... Combien de gens il y avait dans la grande assemblée? Combien? 120. Parmi eux, il y avait des prophètes. Dès qu'on parle des prophètes, parmi eux, il y avait des prophètes. Combien de prophètes il y avait parmi les 120 personnes de la grande assemblée? Un petit peu plus, 80, il y a 30 hommes. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Quand il y avait ce qu'on appelle la Sanhedrin Abdullah, il y avait parmi ces gens-là 80 prophètes. Vous savez ce que ça veut dire un prophète? Qu'est-ce que c'est un prophète? C'est quelqu'un qui voit l'avenir? Oui ou non? Non, c'est pas ça un prophète. Un prophète, c'est celui à qui Hachem parle. Pas qui entend Hachem. Dieu parle par sa bouche. C'est autre chose. Non. Hachem menabe et Adam. C'est pas l'homme qui entend des voix. C'est pas qu'il entend, c'est que Dieu parle par lui. C'est-à-dire qu'il le traverse littéralement pour donner le message divin. Donc imaginez-vous maintenant ces mêmes personnes, la grande assemblée, où il y a 80 prophètes qui nous donnent un texte de la Amida que nous disons aujourd'hui 3 fois par jour plus de Chazaroth, et qu'à l'intérieur de ce texte, il y a un texte qui nous dit « Kone Hakol ». Qu'est-ce que ça veut dire « Kone Hakol » ? Celui qui maîtrise tout, ou « Mevi Goel » qui amène au présent « Goel » le Rédempteur, le libérateur d'Israël, livnei bneihem, au fils des fils, les ma'an shemo, pour son nom à lui, Be'ahava, avec amour. Donc on va essayer de comprendre ce que cela veut dire. Vous comprenez qu'il y a ici quelque chose de très profond. Malheureusement, on a l'habitude de lire la Amida très rapidement. Mais si on s'arrêtait et qu'on prenait le temps de lire ce que nous disons, d'entendre ce que nous disons, d'écouter ce que nous sommes en train de voir, de se remplir de ce qu'il y a écrit là-dedans, ce serait autre chose. D'ailleurs, un véritable homme qui prie la Amida doit être très proche de la prophétie, nous dit le Rambam. C'est de la prophétie. Donc ce que nous récitons, ce n'est pas un rituel. Alors regardez bien, si ces personnes-là nous ont laissé un texte, « Shmonim nevi'im she'ayu ben ansha knesset ha'gdola » les 80 prophètes qu'il y avait parmi ces hommes de la grande assemblée, vous comprenez ici que ce n'est pas juste une façon de parler. Parce que si c'était tous des grands, on aurait dit qu'il y avait 120 prophètes. D'accord ? Les sages ne mentent pas, ils ne racontent pas d'histoire. Parmi les 120, il y avait 80 prophètes. Pas un de plus, ni un de moins. Et donc ce sont eux, par une maîtrise totale, car c'est Dieu qui parle à travers ces gens-là, et ils nous racontent ce qui va se passer à la fin des temps. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc la fameuse phrase que nous récitons tous les jours, « Koneh hakol », donc qui maîtrise le tout, « Umevi goel » et qui amène le goel, « Livnei ibnehem » au fils des fils, « Le ma'an shemo » pour son nom à lui, « Be'ahava » avec amour. « Imlo livnehem » donc si ce n'est pas à leur fils, « Livnei ibnehem yadi Hashem et ora geoula » il va l'amener au fils des fils. C'est-à-dire que nous sommes ici face à une véritable vadaout, certitude, que la Géoula est vraie. Et dit le Rav Kook, il n'y a rien de plus certain que la Géoula. C'est la chose la plus certaine qui soit. Pourquoi ? Parce que nous sommes créés avec cette qualité-là. Le peuple d'Israël s'appelle comment dans sa nature ? Géoulim, Géoulé Hachem. Ceux qui subissent la Géoula. C'est ça, notre nom. C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'est pas normal dans notre vie? L'inverse, l'exil. La galoute n'est pas normale, vous comprenez bien? Géoulim, Géoulé Hachem, Hacher Géalam Miyad Tsar. C'est-à-dire que nous sommes les Géoulim. On est appelé les messies, on est appelé les prophètes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 80 prophètes parmi 120 hommes de la grande assemblée. Et je viens de vous dire que nous sommes tous des prophètes. Tu es prophète toi? Oui? En potentiel tu es prophète. Pourquoi tu n'as pas dévoilé jusqu'à ce jour ta prophétie? Pose-toi des questions. Vous comprenez que vous êtes tous prophètes? Par définition, vous êtes prophètes. Par définition, vous êtes dans la Géoula. Comment se fait-il que vous êtes tombé en exil? Comment se fait-il que vous avez arrêté de prophétiser? Comment se fait-il que vos muscles de Nebuha sont malades à ce point où vous n'êtes plus capable de traduire le verbe de Dieu, alors que c'est notre nature? Eh bien, les sages de la grande assemblée nous disent, ne t'inquiète pas, ou mes vigoës, c'est une certitude, la Géoula viendra aux fils et aux petits-fils, si ce n'est pas les fils et les petits-fils. Les ma'an shemo be'ahava. Mais pour qui? Les ma'an shemo. Pour son nom. Qu'est-ce que ça veut dire pour son nom? Pour son honneur? C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui risque le nom d'Hachem? Pas Hachem, son nom. Quoi? D'être sali. Comment est-ce que tu dis? On n'a même pas le micro là. Ils entendent quand même ou c'est pas filmé? Le micro, là. Je vous ai posé une question. Histoire. Pourquoi? Quel est le sens? Comment ça s'appelle en hébreu? Non. Comment? Chiloul, y'a fait. Qu'est-ce que ça veut dire Chiloul Hashem? Profanation de qui? Non, pas de Dieu. De son nom. Tu peux pas profaner Dieu. Tu ne peux, Chas Veshalom, que profaner son nom, pas lui.
C'est Dieu.
Hein?
C'est Dieu.
Quoi? Non, non. Il y a une différence, chez nous en tout cas, entre l'intériorité et l'extériorité. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, quand tu te salis extérieurement parlant, ou aussi intérieurement parlant? Non. Ta neshama, encore une fois, si elle était sale, tu n'aurais pas pu dire tous les matins, Elohai neshama shenasa tabi tehora. Donc tu mens? Tous les matins tu mens?
Non.
Ça veut dire que, qu'est-ce qui s'est sali quand tu as fauté? Que ta partie superficielle. Eh bien, chez Dieu, nous ne sommes pas capables de salir quelque chose de l'intérieur, Chas Veshalom. C'est tellement l'infini absolu qu'on n'a pas de lien. On ne peut même pas atteindre ça, Chas Veshalom. Donc, qu'est-ce qui peut, oui, changer? La profanation de son nom ou bien la sanctification de son nom. Vous comprenez? Ce qu'on appelle Kiddush Hashem ou Chiloul Hashem. Donc le nom, c'est la partie extérieure, dévoilée, on va dire. D'accord? Qui est cette partie extérieure et dévoilée qu'on appelle le nom? Qui est le nom d'Hachem dans ce monde? Il a fait Israël, c'est le nom d'Hachem. Donc, Chiloul Hachem, c'est Chiloul de qui? D'Israël. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une nation fait du mal à Israël, c'est comme si elle profanait le nom d'Hachem, parce que nous sommes le nom d'Hachem. Pourquoi nous nous appelons le nom d'Hachem? Parce que c'est grâce à nous, à travers nous, qu'il se dévoile. Vous avez compris ça? Nous sommes les seuls révélateurs témoins de son maître. Atem edai va ani el. Si vous arrêtez de témoigner, je ne suis pas. Imaginez-vous, c'est très grave ce que je suis en train de dire. Mais c'est Dieu lui-même qui le dit par la bouche du prophète. Donc, quand la Géoula va venir et que vous dites dans votre Amida, Kumevi Goel Livnei Bnehem Lema'an Shemo, retraduisez-moi maintenant ce que ça veut dire. Pour qui va apporter la Géoula? Pour son nom, c'est-à-dire pour Israël. Autrement dit, le Mashiach va devoir sortir d'où? D'Israël. Car c'est lui qui est le révélateur d'Hachem. C'est lui le nom, le porteur du message divin. Donc il va être roi. Donc il faut un royaume pour ça. D'accord? Et tout ça, ça doit se passer par amour. Il y a fait un Be'ahava par amour. On va tout doucement essayer de comprendre les choses. Quel? Tu peux pas profaner quelqu'un, tu peux profaner son nom. Encore une fois, tu peux pas profaner Dieu. Comment s'écrit Chiloul Hashem? Chiloul, et comment s'écrit Hashem? Comment s'écrit Hashem en hébreu? Ah, il y a fait. Maintenant tu viens de parler. Si tu m'avais dit Chiloul Hashem, Chas Veshalom, Yudke Barke, ça aurait prouvé que tu n'as pas compris. Mais la traduction que tu viens de me dire maintenant, et la manière d'épeler, Chiloul Hashem, Hey, Shin, Mem, ça me prouve que tu as compris le sujet. Tu ne peux pas profaner lui, tu peux profaner son dévoilement. Non, non, non. Pour nous, Yudke Barke, c'est ce qu'on appelle le Shema Esed. C'est sûr que c'est toujours l'infini, mais le Yudke Barke, c'est encore vous.
Il n'a pas vraiment le nom.
C'est pour ça que le nom d'Hachem, Shemo, ça correspond en fait qu'à la partie entre guillemets féminine qui va le dévoiler. Qu'on appelle nous Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël. Donc tu peux profaner malheureusement l'extériorité, la femme d'Hachem, mais pas Hachem lui-même.
Donc
Alors justement, dans les livres de Kabbalah, on te dit que comme on ne peut pas parler tout le temps du Ensof Baruch Hu, de l'infini béni soit-il, et tu as raison, même le nom de Yudke Vavke, c'est encore un nom, mais les sages pour nous dire que c'est le nom de l'essence elle-même, alors Yudke Vavke, c'est le nom de l'essence. C'est pas le vêtement. D'accord? Il y a d'autres vêtements, comme le chef Aznout, comme le chef Elohim, mais le Yudke Vavke, lui, est basé par rapport à l'essence elle-même. D'accord? Donc tu ne peux pas profaner le Yudke Vavke, on va dire comme ça. Mais tu peux profaner Elohim. Et la preuve, c'est qu'il y a Elohim Acheri. C'est ce qu'on appelle de la Avodah Zara. Il n'y a pas Yudke Vavke Acheri. Ça n'existe pas. D'accord? Adonai, ça aussi, c'est un nom, mais c'est déjà un vêtement. L'amdeni Khukecha. Mais l'essence même, Shema Etem, Asmut, c'est ce que nous disons, nous ne disons même pas ce nom-là, la preuve on n'a pas le droit de le prononcer, parce que justement sa référence, c'est la référence intérieure. Donc, Shlosha Suge Geulahe, il y a trois degrés au niveau de notre Geula. Or, Shetit Galeh Vedor Zakai, ou bien elle se dévoilera dans une génération méritante, qui s'est nettoyée, Zach veut dire propre. Oh, Shetit Galeh Bedor Chayav, ou bien elle se dévoilera dans une génération qui est accusée, c'est-à-dire une génération qui ne s'est pas bien comportée, coupable, Vezot, Mishtei Sibot Shonot. Et à l'intérieur de ce coupable, il y a deux degrés. Mitzat Kruta Avot, Oh, Leman Shmo Hagadol Baruch Hu. C'est-à-dire que la rédemption se fera ou bien dans une génération qui est méritante, ça on n'en parle pas, ou bien dans une génération qui est fautive, coupable, pour deux raisons possibles. Ou bien parce que cette génération, bien qu'elle soit fautive, elle a ce qu'on appelle le mérite des pères, donc on sera de toute façon sauvé par le mérite de Abraham, Yitzhak et Yaakov, ou bien les Ma'an Shemo pour son nom, comme on vient de l'expliquer. C'est-à-dire, pour ne pas que son nom soit sali, profané. Comment est-ce que je peux profaner, Chas v'Shalom, le nom d'Hachem? Donnez-moi un exemple de profanation du nom d'Hachem. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Donne-moi une façon de faire un chiloul, Hachem. Non. Non, ma. Pourquoi? Pourquoi? À partir du moment, je vais vous donner la référence de ce que je vous pose comme question, vous allez bien comprendre. Dès qu'un homme d'Israël, qui en réalité, on a dit tout à l'heure, le témoin. Donc quand on voit Israël, on voit qui? Hachem. Sous une forme humaine. On est d'accord? Si cette forme humaine se conduit mal, de qui on va parler mal? D'Hachem, pas de cette personne, vous comprenez? Par exemple, on peut traiter Dieu de menteur. Non, c'est pas permis, c'est interdit. Mais donne-moi une façon de traiter Dieu de menteur, sans dire « Dieu, tu es un menteur ». Que quoi? Il y a fait un autre. Je vais un petit peu plus loin de ce que tu viens de dire. T'as un bon système de réflexion, toi. Tu devrais approfondir. Tu peux arriver loin. Un homme qui vit, un homme d'Israël qui vit en dehors de sa terre. D'accord? Situation classique, vous connaissez, d'accord? On voit quelqu'un, on sait que c'est un juif, il est reconnaissable, ou bien il a un chapeau, ou bien il a une casquette. Aujourd'hui c'est un club, tous les juifs de France, ils ont une casquette, avec une petite barre. On sait tous qui fait partie du club. Zarma, il se déguise. D'accord? Cet homme-là mange sa chair, il fait Shabbat, il a ses enfants dans une école juive, il fait tout. Est-ce qu'il fait du Chiloul Hashem ou pas? Pourquoi il fait du Chiloul Hashem? La femme, non. Qui le dit ça? Non. Le prophète. Quel prophète? Zacharie. Quel chapitre? 36, 37. Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète? Donc c'est Dieu qui parle. Je vous ai dit tout à l'heure que le prophète, c'est Dieu. Lorsqu'on voit un juif dans une rue qui n'est pas la terre d'Israël, que dit la nation en question quand elle voit ce juif? C'est vrai, ça a des conséquences. Am Hashem Ele, ça c'est le peuple de Dieu, ou mais Arso Yassau, et il n'est pas sur sa terre. Donc, Dieu est un menteur. Pourquoi? Parce qu'il a promis la terre à ce peuple, et la preuve c'est que les êtres de ce peuple-là sont à l'extérieur, donc Dieu est un menteur. Nous disent les Chachamim, écoutez bien, c'est grave, il n'y a pas plus grand profanation de son nom que ça. À tel point que, d'où je sais, la suite du texte. Dieu dit, étant donné que vous avez profané mon nom parce que les nations vont dire de vous ça, 1, 2, 3, 4, 5, quand ils vous voient dans une des rues de je ne sais pas où, dans le monde, qu'est-ce que je dois faire maintenant, moi, Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour réparer ce mal? Quoi? Dieu, il fait du douille. Nous, bémé. Réfléchissez un petit peu. Vechilaltem et shmi. Vous avez profané mon nom parce que vous êtes à l'extérieur de ma terre. Donc qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois vous ramener. Vekibati etrem. Pourquoi? Pour me sanctifier mon nom, pour ne pas passer pour un menteur vis-à-vis des nations du monde. Vous comprenez la responsabilité que vous avez? Non, je vous ai donné un exemple. Mais le chiloul vient dans ces degrés-là. Vechilaltem et shmi, ba'umot asher ba'em, ba'aratot asher ba'em sham. C'est ça que la Torah va utiliser, que le prophète va utiliser comme référent. Il ne va pas dire vous avez mangé taref. C'est incroyable quand même. Donc, ou bien nous avons un mérite de nos pères et Dieu va nous ramener sur la terre. Ou bien, il va le faire pour son propre nom, parce que nous l'avons profané, et il va le sanctifier tout seul. Comment est-ce que ça se dit en hébreu qu'il va se sanctifier tout seul? Non? Oui, presque. Nachon, est-ce que vous avez un verset en tête que Dieu fait ça tout seul? Vitgadilti vehitkadishti. Traduction, je me grandirai tout seul et je me sanctifierai tout seul. Alors que nous, on lui demande, comment est-ce que tu demandes? Itgadal veitkadash. Shem, Shem, Yutke, Rabba. Shem et Rabba. Donc nous, on lui dit, on demande, que son nom soit glorifié, que son nom soit sanctifié. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Malheureusement, vous ne l'avez pas fait, dans un cas extrême, alors je suis obligé de le faire moi-même tout seul. Ça vous ouvre une certaine ouverture, vous comprenez la gravité des choses? Maintenant, on ne peut pas même pas discuter avec ça, c'est une prophétie. C'est même pas ma manière de comprendre la chose ou pas. Le texte est clair. Donc Dieu est Dieu vivant. Et donc s'il est Dieu vivant, il doit le prouver par un peuple vivant. Et si le peuple n'est pas sur sa terre, il n'est pas peuple. Et donc il est considéré comme ossement desséché. C'est ce qui est marqué dans le même chapitre de Yéhézkiel que je viens de vous citer. Donc des morts. Et d'ailleurs, il va utiliser le terme tombeau. Cimetière. C'est-à-dire que l'exil est un cimetière. Est-ce que vous avez un verset qui le dit? Ve'eleti etchem Mikivrotechem, je vais vous sortir de vos tombeaux. Et je vous amènerai sur la terre. Ça veut dire que la terre, c'est en dehors de la tombe. Mais que l'exil, c'est la tombe. Vous avez envie de vivre, de continuer de vivre dans des tombeaux? Dites-moi la vérité. Comment est-ce que des hommes de Torah continuent et maintiennent le tombeau, c'est-à-dire à l'intérieur du tombeau, ils creusent un petit peu plus, et ils créent là-bas une école juive, une synagogue et une boucherie cachère? Ça veut dire qu'il y a un manque d'études. Et pourtant, je ne vous invente rien. Vous pouvez aller chercher, toutes les références sont données à Rabotai. Yosef, de tout ce que je viens de dire, il sort une chose incroyable. Chez Imador et Inozakai, que si la génération n'est pas méritante, on va dire que nous sommes dans une génération qui n'est pas méritante d'avoir le Mashiach, Chas v'Shalom, qu'à Dieu me plaise, Ve'im kvar, même si le mérite de nos pères Abraham, Yitzhak et Yaakov est déjà dépassé, il n'y a plus de mérite, on a déjà mangé le bonus du mérite. La Géoula viendra de toute façon, au moins, ne serait-ce que pour sanctifier son nom. Je vous redis ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a rien de plus sûr que la Géoula. D'une manière ou d'une autre, elle devra venir. Alors, pourquoi vous vous faites du souci? Dites-moi pourquoi vous vous faites du souci. Non. Non. Oui, donc, ça dit plus loin. De quoi tu te soucies? De la manière dont la Géoula va se faire. Parce que si je suis méritant, elle va se faire d'une manière douce, agréable. Et si elle est Chas v'Shalom, pas par mon mérite, elle va se faire d'une manière beaucoup plus dure, par des guerres, par des situations terribles. C'est pour ça que les sages, il y a plein d'autres, ont rajouté la notion de la fin, Be'ahava. C'est-à-dire, même si tu amènes à Kadosh Baruch Hu la Geoula pour les enfants de tes enfants, même si ce n'est plus par notre mérite, fais-le Be'ahava par amour. Parce qu'il y a un amour, parce que toi et nous, nous sommes dans une seule et même unité, dans un contexte unique. Quelle est la valeur numérique du mot Ahava? 13. C'est la même valeur numérique que le mot Echad. L'unité. C'est-à-dire que toi et nous, nous sommes un. Ata Echad ou Mika Amcha Israel Goy Echad. Baare. Et ça, cette unité, c'est l'amour. Quand est-ce que je peux savoir si j'aime quelqu'un? Qu'est-ce que c'est aimer? S'identifier, avant de donner. S'identifier alors. Si je n'arrive pas à m'identifier à toi, je ne peux pas t'aimer. Et donc, à Kadosh Baruch Hu, avec Israël, il y a une en-identification. On n'arrive pas à séparer. Le Zohar nous dit un secret. À Kadosh Baruch Hu et Israël, et la Torah, c'est une seule et même chose. Quelque chose qu'on a du mal à comprendre, nous, avec notre cerveau. Il nous dit, c'est une seule et même chose. Et ça, c'est le secret de ce que ces sages nous ont laissé. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous aime. Il y a un lien d'amour. Qui dépend de quoi? De rien du tout. C'est ça le secret. Si le lien d'amour entre lui et nous dépendait de nos actions, ça voudrait dire que si un jour nos actions sont mauvaises, le lien d'amour s'arrêterait. C'est pas de l'amour, c'est ce qu'on appelle en hébreu « Ahava ». Chetluya badavar, il a fait. Batel hadavar, betela ahava. Tu enlèves le lien d'amour pour lequel tu aimes, il n'y a plus d'amour. Si tu dis à quelqu'un, tu sais pourquoi je t'aime? Parce que j'aime ta kippa. Alors, demain tu vas venir avec une autre kippa, qu'est-ce que je vais te dire? Je t'aime plus. C'est pas de l'amour, ça. Je t'aime pas pour ta kippa. Je t'aime pas pour ton talit. Je t'aime pas pour ta chemise. Tu sais quoi, je t'aime même pas pour tes actions. Je t'aime pour ce que tu es, tout court, c'est tout, je sais pas. Ça, c'est l'amour entre Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël. Vous comprenez la différence? C'est énorme, Rabotai. Je vous aime. Est-ce que vous avez un verset qui dit ce que je viens de vous dire pour ne pas que vous croyiez que je vous raconte des salades? Est-ce qu'il y a un verset qui dit c'est comme ça, je vous ai toujours aimé. Ça changera jamais. Je jure par mon nom. Je vous ai déjà tout dit, il faut juste me le traduire en hébreu. Et voilà, ce matin. Ahavti etchem neum Hashem. Je vous ai toujours aimé, je le jure par mon nom. Ahavti etchem. C'est pas je vous ai aimé au passé. C'est une forme continuelle d'amour. Ça ne changera jamais. Rivka ohev et Yaakov. Rivka elle aime Yaakov. Rivka c'est la Shrina. Elle aime toujours Yaakov. Quel?
Si l'amour ça dépend de rien, alors pourquoi?
Si l'amour
ça dépend de rien.
Ok.
Pourquoi un petit Shrika c'est une seule petite personne? C'est-à-dire qu'il y a des raisons.
Encore une fois, le véritable amour entre un homme et sa femme, c'est un amour inconditionnel. Si tu aimes ta femme, ta future femme, t'es pas encore marié, si tu l'aimes parce que elle est belle, elle a de beaux cheveux, et elle a une belle démarche, ok? Le jour où elle vieillit, elle sera un petit peu moins belle. Elle va se couvrir les cheveux avec d'autres cheveux, et sa démarche va un petit peu changer parce qu'elle aura porté des sacs pour faire les courses, pour que tu aies à manger. Donc qu'est-ce que tu vas lui dire, ma chérie, je t'ai aimé pour ces trois raisons. Ces trois raisons étant révolues, je te donne le guet. Ça, c'est véritablement l'amour. Ça. Chaque femme, elle rêve que de ça. Tu comprends bien que c'est pas pour ça qu'on peut aimer une femme.
Non, moi, justement, je comprends qu'on peut différencier. Pourquoi on aime une seule femme et elle va donc pas toutes les femmes.
Tu as raison, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, normalement, apparemment, tout est ouvert. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui est beaucoup plus profond que ça. C'est que ce n'est pas par rapport à ce que tu as vu de la deuxième et de la troisième. Comment est-ce qu'on dit ? Afilura achatia famimena et nosazminena. Même si tu as vu une plus belle qu'elle, tu ne bouges pas. Ça n'a aucun rapport avec la beauté. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. Parce que justement, ça ne s'explique pas. C'est rare de trouver la même intensité avec plusieurs. Quand tu trouveras ta véritable femme avec l'intensité de cet amour, tu comprendras pourquoi c'est elle et pas une autre. Et je vais te présenter 10 minutes après une autre femme. Tu vas me dire, mais ça change rien. Ce n'est pas logique, ce n'est pas de l'ordre de la logique. Je l'aime, un point, c'est tout. Ashrei ha'am shekacha lo. Alors il y a un amour qui est l'amour d'une femme, et il y a un amour d'un ami, et il y a un amour d'un voisin, et il y a un amour d'un fils et d'une fille. Ce n'est pas le même amour. Le véritable plus haut niveau dans l'amour d'Hachem avec Am Israël, c'est ni comme étant tes enfants, ni comme étant tes serviteurs, ni comme étant quoi que ce soit. Une seule chose. Knesset Israël bat Zugo chez la Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'on est comme son épouse, c'est le plus grand lien d'amour. Il n'y a pas plus haut que ça. Et si on arrive à ce niveau-là d'être l'épouse de Dieu, on a atteint le sommet. Ça, c'est le véritable amour. Et d'ailleurs, le Rambam, comme par hasard, il dit, jusqu'à combien tu dois aimer Dieu? Non, comme tu aimes une femme, ta femme, qui est avat isha, sheshogeb, tu es devenu tellement fou, tu penses à elle toute la journée, tu n'arrives pas à faire quoi que ce soit sans penser à elle, tu n'arrives pas à dormir, t'as plus faim, t'as plus soif. Pourquoi il prend comme référence l'amour d'une femme? C'est bizarre quand même, non? pour te montrer que l'homme, la chose la plus intense qu'il puisse atteindre dans ce monde, c'est cet amour-là.
Ça, c'est la passion, c'est l'amour.
Appelle-la en français comme tu veux. En hébreu, il y a d'autres nuances. En français, la passion peut être traduite comme une maladie aussi. Et tu as raison, dans ce sens-là, le Rambam va terminer son exemple en disant « Kichola ahava ani ». Je suis malade. Il y a une certaine maladie dans l'amour.
C'est pas
l'amour. Ok ? Alors, dans la Torah, oui. Dans la Torah, oui. Ça, c'est un véritable amour.
Ouais.
Maintenant, il va falloir comment, dans cet amour, introduire les valeurs de la vie, de tous les jours. Ok ? J'ai pas compris. On te dit que le véritable amour, la véritable identification, c'est quand un homme est marié, effectivement. C'est pour ça que Nadab et Abihu, qui sont entrés par exemple dans le sein des saints sans être mariés, sont immédiatement morts. Tu comprends? Tu ne peux pas montrer que tu t'es transformé dans ta vie tant que tu n'es pas marié. Pour une seule raison. Avant tout. Il y a encore d'autres raisons, c'est sûr. Tant que tu n'es pas marié, tu es encore dans un désir de recevoir. Dès que tu te maries, tu transformes ton désir de recevoir en désir de partager. Toi aujourd'hui, quand tu te réveilles pour toi tout seul. Tu vas manger pour toi tout seul. Tu vas dormir pour toi tout seul. Tu penses à rien. Quand tu vas te marier, tu vas penser pour deux. Tu vas t'habiller pour deux. Tu vas manger pour deux. Tu vas changer complètement ta manière de vivre. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu nous aime, et c'est comme ça que nous aimons Akadosh Baruch Hu. Dans les tfilines d'Akadosh Baruch Hu, il y a marqué dans la Gemara, c'est comme s'il s'était accroché un souvenir sur son bras divin, où il y a marqué Mikamcha Israël. Il n'y a rien, il n'y a personne d'autre que j'aime comme toi, mon amour. Hein?
Hachem, il est un.
Il va y faire, justement. Hachem, il est un, et la seule nation qui est un dans ce monde, c'est Israël. Goy Echad. À condition, dit le Zohar, qu'elle soit Ba'al. C'est la suite du verset. Vous comprenez l'importance et la responsabilité que nous avons? Alors, vous n'êtes pas tombé dans une yeshiva sioniste qui essaie de vous bourrer la tête pour venir en Israël. La Torah tout entière, Akadosh Baruch Hu tout entier, Rabbi Shimon Bar Yochai, tout entier, c'est la valeur de la nation sur sa terre. Et tant qu'il n'y a pas cette nation-là, il vaut mieux aller se balader dans les cavernes. C'est ce qu'il a fait. Alors, Be'ezrat Hashem, dans cette suite, nous allons Be'ezrat Hashem continuer et toucher un petit peu plus en profondeur les valeurs de ce qu'on appelle communément aujourd'hui la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, puisque ce sera la veille de Yom Yerushalayim. Bien, c'est exactement les mêmes notions. C'est-à-dire, mardi soir prochain, c'est Yom Yerushalayim. S'il y a cours mardi prochain, vous le saurez. Et s'il y a cours, Be'ezrat Hashem, nous traiterons de cette double Jérusalem, celle d'en haut et celle d'en bas. Toda rabba.